Chers frères et sœurs et chers amis, je propose que nous lisions ensemble la deuxième épître de l'apôtre Jean. D'abord, je vais lire l'épître, deuxième épître de Jean. L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. La grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Or maintenant, ô dame, je te prie, non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avions opéré, mais que nous recevions un plein salaire. Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Chers amis, c'est une épître de cet homme, cet apôtre Jean, un apôtre qui, dans ses écrits, a surtout parlé de la famille de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent à Dieu, qui ont reçu la vie éternelle par la foi au Seigneur Jésus. Ici, il écrit une lettre à une dame, comme nous avons lu, la dame élue. Cela nous étonne peut-être un peu parce que c'est la seule lettre, la seule épître, la seule lettre qui est adressée à une femme. C'est déjà quelque chose de remarquable. À une femme et apparemment à une maman, à une mère de famille, parce qu'il y a aussi des enfants auxquels il s'adresse également. Donc une famille que cet apôtre, qui ne s'appelle d'ailleurs pas ici apôtre, on va le voir encore, a vraiment sur son cœur. C'est très beau de voir que l'Esprit de Dieu cherche aussi à écrire quelque chose à une famille. Nous avons aussi des familles et nous pouvons être heureux d'apprendre des choses qui sont aussi pour notre famille, où l'Esprit de Dieu nous parle directement, comme c'est le cas ici. Nous pouvons le prendre aussi pour nous. Il est peut-être un peu étonnant qu'il n'y a pas de père qui est mentionné, mais là on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être ce père ne vivait plus, il était peut-être déjà délogé, et que cette dame est une veuve, Ou peut-être aussi que son mari n'était pas croyant, ce qui était possible aussi dans le temps, parce que quelquefois, on a ça plusieurs fois, que seulement après avoir s'être lié en mariage, on s'est seulement converti plus tard. Alors que peut-être elle était convertie et son mari non, mais on ne sait pas très bien. En tout cas, la situation n'est pas tout à fait normale, c'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, nous sommes heureux quand il y a des familles où le père est croyant, la mère est croyante et que vraiment on veut suivre ensemble le Seigneur. Ça, c'est d'après la pensée du Seigneur, ça c'est normal. Ici, c'est un peu anormal, mais pourtant, l'Esprit de Dieu parle aussi à cette sœur, à cette femme. Encore un mot concernant le fait comment l'apôtre Jean se présente. Il ne dit pas Jean, apôtre de Jésus-Christ, il l'était, bien sûr, mais il dit l'ancien. Il parle comme un ancien. Ancien, on peut dire aussi un surveillant. C'est la même chose dans les épîtres du Nouveau Testament. Nous trouvons les deux expressions et c'est la même chose. Ce sont des personnes qui, dans un rassemblement, en général, en tout cas dans un rassemblement, surveillent dans un sens spirituel les amis, les frères et sœurs avec lesquels le Seigneur l'a mis ensemble. C'est d'ailleurs une tâche très honorable. C'est une tâche qui n'est pas facile. C'est une tâche pour laquelle il faut avoir rempli aussi certaines conditions. Je ne veux pas parler des conditions que nous trouvons dans les Épîtres, mais nous comprenons bien que c'est un homme qui a mûri dans une vie avec le Seigneur. Il a une expérience spirituelle, une expérience morale pour pouvoir donner des enseignements, pour pouvoir donner aussi des exhortations peut-être, des consolations, des encouragements. C'est quelqu'un qui a une vue sur le troupeau. Et c'est d'ailleurs une chose qui est très, très importante, une chose importante dans tous les rassemblements, qu'il y a des frères qui exercent ce travail, cette tâche que le Seigneur peut leur donner. Ce ne sont pas des personnes qui sont nommées. Non, non, pas nommées. Ce n'est pas quelqu'un ou peut-être plusieurs qui se mettent ensemble et qui disent nous allons élire comme cela un surveillant, élire un ancien. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait et qui fait comprendre aussi aux amis dans un rassemblement qui a un certain don de surveiller, qui a aussi une expérience remarquable peut-être, une expérience pour pouvoir exercer une certaine autorité morale, on pourrait dire. Alors c'est dans ce sens-là qu'il parle. Et il a cette famille sur son cœur. Il y a peut-être encore une chose, petite chose, une dame élue, une dame. En général, nous ne trouvons pas ce mot dans l'Écriture. En général, c'est la femme, une épouse, une femme. Mais la dame, peut-être que c'est une dame qui est un peu dans un niveau un peu supérieur, mais surtout, il me semble, ce n'est pas tellement ça, mais surtout, ici Jean lui parle avec une grande retenue et une révérence adéquate, on peut dire, oui. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Nous sommes aujourd'hui dans une société où on parle tout autrement, les hommes et les femmes ensemble. Mais là, une certaine retenue, saine, retenue, qui est vraiment selon la pensée du Seigneur. C'est vrai aussi pour un ancien, c'est vrai aussi pour chaque frère et sœur, chaque frère aussi, que de prendre garde, de ne pas trop se familiariser, on peut dire, je pense, avec une sœur. Attention, le Seigneur veut nous mettre en garde. Et une révérence est certainement à la place. Il donc lui écrit à elle et à ses enfants. Il ne dit pas, non, il dit élu. Peut-être cela veut dire tout simplement aussi que c'est une femme qui était croyante. Et nous savons que les croyants sont des élus. C'est-à-dire selon l'élection de Dieu, elle a aussi sa place. D'ailleurs, nous aussi qui sommes au Seigneur, appartenons au Seigneur, nous sommes des élus. Des élus et aussi des bien-aimés, comme nous pouvons le lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre s'adresse à nous, aux Colossiens, pour leur dire « Vous êtes des élus et vous êtes des bien-aimés ». Une position élevée, une position pour laquelle nous ne pouvons rien, mais c'est uniquement la grâce qui a fait cela de nous. Là, nous le reconnaissons bien. Et deuxième point, il ne dit pas ici à cette dame bien-aimée. Alors là aussi, plus tard dans l'autre épître où il s'adresse à un homme, à Gaius, troisième épître de Jean, il dit le bien-aimé. Ah oui, le bien-aimé. Mais pour la dame, encore une fois, cette révérence qui est juste, qui est très bonne. Mais est-ce qu'il ne l'aime pas ? Si, et nous le voyons tout de suite dans la phrase qui suit, « Que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Que j'aime dans la vérité. » Dans notre version ici, nous trouvons que l'article est entre parenthèses, donc il n'est pas dans le grec. Alors, quand il y a cet article, la vérité, c'est quelque chose, on pourrait dire peut-être, l'ensemble, le dépôt de la foi, de la vérité. C'est la vérité. Et nous avons bien sûr aussi des expressions que la parole et la vérité, nous savons, il y a trois expressions que nous trouvons dans la parole. La parole et la vérité, donc la Bible. Le Seigneur Jésus est la vérité. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit est la vérité. De trois sont mentionnées justement cette expression, la vérité. Ici, que j'aime dans la vérité, que j'aime en vérité, dans cette essence de vérité qui nous unit. La vérité, c'est ce que nous avons connu. Ils connaissent la vérité, comme il est dit après. Qui connaissent la vérité. Qu'est-ce que c'est connaître la vérité? Le Seigneur Jésus nous a fait entendre la vérité. La vérité dans son ensemble. Premièrement, quand on se convertit, on entend la vérité. D'ailleurs, il y a une chose que nous ne voyons pas toujours très bien. Quand nous prêchons l'Évangile, disons souvent, alors nous prêchons l'Évangile, c'est l'amour de Dieu qui cherche le pécheur. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais le Seigneur ne commence pas avec l'amour, mais il commence avec la vérité. C'est la première chose qu'un pécheur doit comprendre. La vérité quant à lui, la vérité quant au Seigneur, la vérité quant à Dieu. Parce que la première bonne œuvre que l'on peut faire, qu'est-ce que c'est? Prêcher l'évangile quand on est converti? Non, ce n'est pas la première. La première chose, la première bonne œuvre, je veux dire, que nous faisons, c'est de dire oui à ce que Dieu dit de nous. C'est-à-dire que nous disons oui, je suis pécheur. Tu m'as fait comprendre que je suis pécheur. Mais encore, tu m'as fait comprendre, tu m'as fait savoir que toi, tu aimes le pécheur et tu veux le sauver. Nous avons encore une partie de la vérité. Et la troisième, la grande vérité, c'est qu'il y a un seul qui est la vérité et qui nous sauve. C'est le Seigneur Jésus qui est la vérité. Alors, nous comprenons que la vérité, c'est quelque chose de élargi, large, on peut dire, oui, quant à nous, quant à Dieu, quant à son amour, quant à son conseil d'amour qu'il avait. De comprendre cela. Quand on comprend ça, on a reçu la vie. Et ceux qui connaissent la vérité, ce sont des personnes qui ont reçu par grâce, par la foi, la vie éternelle. Voilà des personnes desquelles, ici, l'apôtre parle. Tous ceux qui connaissent la vérité aiment aussi cette dame et ses enfants, parce qu'il y a cet amour qui nous lie entre nous. C'est le même amour que nous avons à cause de la vérité qui habite en nous, la vérité qui signifie que nous possédons la vie éternelle, que nous sommes vraiment, nous sommes aussi de la même famille. Ensuite, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. La vérité qui demeure en nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui habite en nous? Et je viens de dire que nous avons trois aspects, n'est-ce pas? Nous avons la parole, nous avons l'Esprit, nous avons le Seigneur, nous avons l'Esprit. Qui habite en nous? L'Esprit Saint habite en nous. Ça, c'est aussi un signe de qualité, on peut dire ça, pour un croyant. Que l'Esprit de Dieu a pris son habitation dans le croyant. Il habite en nous. Kennzeichen. Pardon? Oui, ça nous caractérise aussi. Ça caractérise le croyant, que le Saint-Esprit habite en lui. Et puis, deuxièmement, nous avons encore « et qui sera avec vous à jamais ». Qui sera avec nous à jamais? La vérité, c'est le Seigneur Jésus qui sera avec vous à jamais. Alors nous avons ces deux choses qui sont mentionnées par la parole qui est la vérité. Elle nous dit, le Saint-Esprit est en vous, il habite en vous, il restera en vous et il quittera la terre avec vous quand le Seigneur Jésus va venir. Il sera en vous, il restera en vous. Le Saint-Esprit ne quitte jamais un croyant. Ça, c'est quelque chose de très grand. Nous disons cela peut-être comme ça, mais c'est quelque chose de très, très grand que le Saint-Esprit habite éternellement en nous, en chacun des croyants. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus sera avec nous. Il sera toujours avec nous. Nous serons près de lui. Cela aussi, c'est une grande vérité que l'apôtre met devant le cœur aussi de cette dame. Donc nous voyons dans cet épître, il y a des consolations, il y a encore, et on le va voir après, des encouragements, et il y a aussi des avertissements. Et c'est pour cet avertissement qu'il écrit d'ailleurs cette épître. On va le voir plus encore. Ensuite, la grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. La grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous. Ici, ce n'est pas un souhait, un vœu, comme nous le trouvons quelquefois. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, nous trouvons très, très souvent, au début, que cela sera soit avec vous, au subjonctif. Mais ici, c'est une constatation. C'est une constatation, la grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous. La grâce. Oui, la grâce nous a sauvés. C'est ce qui est venu du cœur de Dieu, qui est amour. C'est avec, dans sa grâce qu'il s'est occupé de personnes telles que nous. C'est sa grâce qui a vu le pécheur, qui n'a pas voulu que le pécheur perdisse, soit, va à la perdition. C'est la grâce qui a parlé à ton cœur et à mon cœur. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait comprendre ce que nous sommes, qui nous a fait aussi connaître, qui nous a fait connaître le Seigneur Jésus, le seul qui peut nous aider, nous sortir de cette misère dans laquelle nous étions. Et nous venons à cette deuxième expression, la miséricorde. La miséricorde, elle a été très grande. Dans l'épître à Tite, de Tite, pardon, dans l'épître de Tite, alors il est parlé de la miséricorde de Dieu qui nous a cherchés. Et la miséricorde de Dieu, elle est toujours là, seront avec vous. Aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui. Et il écrit à cette dame, la grâce, tu la connais, mais la miséricorde, tu la connais aussi, elle sera avec toi et avec tes enfants. Nous avons besoin de cette miséricorde. J'ai déjà plusieurs fois dit, et vous le connaissez bien sûr mieux que moi, que miséricorde, ça veut dire que le cœur de Dieu voit notre misère, voit tel que où nous sommes, et voit que, de quoi nous avons besoin. C'est très grand aussi, une consolation qu'il donne, une consolation qui est et qui n'est pas, disons, un vœu, mais une constatation. Vous pouvez en être tout à fait sûr. Cela sera avec vous. Chers amis, ce sera la même chose pour nous. La miséricorde de Dieu, elle est là chaque jour. Elle était aujourd'hui là, nous ne le savons pas où. Elle était active. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas eu un accident aujourd'hui? Tout simple, exemple tout simple. Savez-vous pourquoi vous avez fait ceci et non pas cela? Savez-vous qui vous a gardé? Nous disons notre reconnaissance du fait que le Seigneur nous a gardés. Aujourd'hui aussi, tout à l'heure, nous avons parlé aussi d'être gardés pour venir ici. Et il y a tant de choses dont nous n'avons pas une idée, mais qui sont quand même des expressions, des activités de la miséricorde de notre Dieu. Et la miséricorde de Dieu sera aussi là pour nous sortir de cette misère sur la terre où nous vivons encore, pour nous introduire dans la félicité du ciel. C'est aussi la miséricorde. Nous trouvons ça à la fin de l'épître de Jude. Nous trouvons ça, que la miséricorde de Dieu est là pour nous sortir de cette misère ici-bas. Donc nous avons besoin de cette miséricorde, mais elle sera avec nous. Et la troisième expression, la paix. Chers amis, la paix. La paix, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas ici la paix avec Dieu. Nous l'avons parce que nous avons... tous nos péchés nous sont pardonnés. Nous n'entrerons plus en jugement. Le Seigneur Jésus a porté le jugement à notre place. Mais il a parlé aussi de notre paix, de cette paix du cœur, de cette paix que nous pouvons et que le Seigneur veut que nous ayons aussi pendant la journée, pendant les jours où nous sommes ici. La paix. C'est-à-dire d'être en harmonie avec Dieu, en accord avec lui. Cette paix, il veut nous la donner, et il nous la donne. Nous sommes peut-être souvent inquiets. Mais quand est-ce que cette inquiétude s'en va? Cette inquiétude s'en va quand nous pensons au Seigneur Jésus, quand nous pensons à lui, quand nous lui parlons, quand nous lui parlons dans la prière. N'est-ce pas qu'avec la prière, tout d'un coup, un souci s'en est allé, parce que nous étions capables, oui, capables, vous me comprenez quand je dis ça, que nous avons pu vraiment mettre la chose devant le Seigneur. Lui, il s'en occupera. Il y a bien des choses qui, aujourd'hui, dans notre temps, nous inquiètent, nous font des soucis, aussi dans les rassemblements. Il y a un souci pour telle chose, pour tel frère. Il y a un souci aussi peut-être parce qu'il y a une tendance de faire ce qu'on pense faire. Moi, je pense faire ceci, je pense faire cela. Nous comprenons, propre volonté, que nous rencontrons peut-être, ça nous inquiète quand nous voyons ça. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir la paix? En mettant la chose devant celui qui peut seul s'en occuper vraiment. La paix sera notre part. Et dans cette paix, nous pouvons avancer. Et avancer avec reconnaissance, avec louange envers celui auquel nous devons et pouvons mettre toute notre confiance. Nous pouvons donc, la chose que je n'arrive pas, moi, à surmonter, je ne peux pas, je la mets au Seigneur en disant, moi, je te laisse la chose, je sais que toi, tu vas t'en occuper. C'est grand aussi ça. C'est vrai pour non seulement pour les vieux frères, les vieilles sœurs, c'est vrai aussi pour les jeunes. Tu as un souci, tu as une peur, tu as quelque chose que tu crains, une inquiétude. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis ça au Seigneur, dites ça au Seigneur. Et alors il le sait déjà, mais avec la confiance tu peux le mettre devant le Seigneur et lui il s'en occupera. C'est une question de foi, mais cette foi aussi nous amène à voir le Seigneur Jésus, de l'avoir lui devant nous, pour pouvoir vraiment être en paix. Et c'est une paix, tout cela c'est de la part de Dieu le Père, oui, Dieu le Père, il s'occupe de nous, comme un Père, Dieu le Père, ce n'est pas dit simplement comme cela, mais Dieu le Père, c'est-à-dire c'est notre Père dans le Seigneur Jésus. Et il a aussi des soins de Père, des soins paternels pour chacun des siens qui lui appartiennent. Ça, nous pouvons être tout à fait sûrs. Deuxièmement, et ce sont ici deux personnes du même, égaux dans le niveau, je m'explique bien, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Les deux fois, c'est avec la préposition « de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et bien encore un mot que l'apôtre ajoute, le Fils du Père. Alors, le Fils du Père, c'est le seul passage d'ailleurs où cela est dit. L'apôtre Jean doit encore dire ceci, écrire ceci, le Fils du Père. Ce n'est pas, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils. Mais il n'est jamais dit que nous sommes des fils du Père. C'est un seul qui est le Fils du Père. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils du Père. Cela nous montre, cela nous dit, une relation tout à fait unique qui existe entre Dieu, le Père et le Fils du Père. Cela nous parle de cette unité absolue du Fils et du Père, du Seigneur Jésus et de Dieu le Père. Ça nous parle aussi de cet amour qui a éternellement toujours existé, une atmosphère d'amour qui existait dès avant que nous étions là, avant que le monde fût. Déjà là, il y avait cet amour divin entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils aime le Père. Cette relation, elle est simplement exprimée par cette expression « le Fils du Père ». Et tout cela, ce qui nous est ici constaté, ce qui sera avec nous, nous trouvons dans la vérité et dans l'amour. Maintenant, deux expressions sont liées encore une fois ensemble, la vérité et l'amour. Et nous comprenons aussi que la vérité est l'expression qui précède l'amour. Et cela, nous devons encore le comprendre, et après nous allons voir encore quelle est la relation entre ces deux expressions, entre ces deux qualités, on peut dire qualité, j'espère, et que l'apôtre mentionne ici. Un petit paragraphe commence maintenant. « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. » Ah. L'apôtre avait vu, cet ancien, il avait vu quelques-uns des enfants. « J'ai vu deux tes enfants. » En allemand, nous avons un autre mot entre les deux pour dire que ce sont quelques-uns. Il n'est pas dit tous tes enfants. Pourquoi pas? Parce que peut-être les enfants étaient encore trop petits pour pouvoir être convertis, nous ne le savons pas. Ou peut-être aussi un enfant n'était pas encore sur le chemin de la foi. C'est possible aussi. Mais il y en avait. Et alors, ceux qui ont suivi, qui marchent dans la vérité, alors c'était visible, c'était la joie de cet ancien. Chers amis, c'est aussi la joie d'un père, c'est aussi la joie d'une mère quand elle peut voir qu'un enfant marche dans la vérité. Et marcher dans la vérité a encore une condition avant, parce que marcher dans la vérité, ça demande toujours aussi avoir compris, avoir appris la vérité, connaître la vérité et la tenir ferme, la vérité. Et quand on a ces deux choses, connaître et tenir ferme, on peut marcher dans la vérité. Ça, c'est la preuve. Et ça, c'est très beau. L'apôtre le dit ici, je les ai vus marcher dans la vérité et ça m'a réjoui. Et je dis aussi, peut-être encore une fois, si vous permettez, aussi à nos jeunes qui sont là, quand vous parents, quand les frères et sœurs qui vous connaissent voient que vous marchez dans la vérité, que vous voulez vraiment faire ce qui est la vérité, nous allons en parler tout à l'heure encore, alors là, c'est de la joie. Et vous comprenez aussi que le contraire, c'est un chagrin. Marchons dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est suivre le Seigneur Jésus. J'ai cherché un mot pour suivre le Seigneur Jésus. C'est quelque chose que l'on cherche. En allemand, on dirait « die Nachfolge », c'est-à-dire la poursuite, non, c'est pas tout à fait ça. Mais de vouloir vraiment, d'avoir vraiment au cœur de suivre le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très beau. Ça réjouit le Seigneur. Ça réjouit les parents. Ça réjouit les frères et sœurs. Ça réjouit l'apôtre. De marcher dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Ah, un commandement? Ça, la vérité, et oui, la vérité est aussi un commandement. C'est-à-dire, nous ne suivons pas une loi. Ce n'est pas la loi du Sinaï, n'est-ce pas, qui est mentionnée ici. Mais il y a un commandement que le Seigneur nous donne. Un commandement que nous comprenons. Le Seigneur lui-même a aussi parlé d'un commandement qu'il avait reçu de la part de son Père. C'est là le commandement, Jean 10, quand le Seigneur parle de cela, de ce que le Père l'aime. Pourquoi? Parce que il est obéissant. Et alors, c'est un commandement de mon Père. Un commandement demande l'obéissance. Est-ce que nous connaissons l'obéissance? Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Un croyant sait ce que c'est qu'obéir. L'élément de sa vie. On comprend quand je dis ça, un élément de la vie du chrétien, du croyant. C'est l'obéissance. D'ailleurs, c'est encore une chose qui n'est pas à oublier. Le nouvel homme aime faire quoi? Aime obéir. Exactement ça. Alors, puisque nous avons la nouvelle nature, parce qu'il y a le nouvel homme là, alors ce nouvel homme ne veut rien faire qu'obéir. Il veut être tout à fait en concordance, oui, concordance avec la volonté de Dieu. Là, c'est son plaisir. Le Seigneur Jésus aussi, elle a dit, c'est son plaisir de faire la volonté du Père. Et est-ce que c'est notre plaisir? Alors notre nouvelle nature, le nouvel homme, je dirais plutôt, le nouvel homme aime être obéissant. Il aime connaître le commandement. Il aime connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous avons la parole. Et dans la parole, nous trouvons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans les différents détails de notre vie, les différents aspects de notre vie, que ce soit notre vie privée, personnelle, notre vie, ma vie à moi, qu'est-ce que je me permets? Est-ce que je me permets seulement ce que Dieu me permet? Ou est-ce que je me permets autre chose? Est-ce que je me permets d'avoir une opinion personnelle? Ah non, la parole me dit ce qu'il faut penser. Ce n'est pas à moi, cette opinion personnelle. Je ne peux pas dire moi je pense. Ah, attention, quand je dis moi je pense, ça va être bloqué. Cette pensée doit être bloquée parce que je sais, parce que je vois, parce que je veux savoir ce que la parole dit. Parce que je veux savoir ce que Dieu aime. Que ce soit donc pour moi personnellement, que ce soit aussi pour notre vie de famille, que ce soit dans l'assemblée aussi, dans le rassemblement. Est-ce que si nous tous auraient l'envie d'être obéissant à la parole, chers amis, il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus de chagrin dont nous avons parlé tout à l'heure. Si chacun voulait obéir, mais ça c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que nous avons encore cette ancienne nature en nous qui ne veut pas obéir. La nouvelle veut obéir et obéit. Voilà, c'est un commandement. Et connaître le commandement, et obéir et le faire, marcher, c'est marcher dans la vérité. Et c'est marcher pour la joie du Seigneur, c'est marcher aussi pour sa gloire. Parce que si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, c'est à la gloire de Dieu. On comprend bien, je pense. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est honorer Dieu. En disant, c'est toi qui as l'autorité, c'est pas moi. C'est toi qui a le qui peut dire ce que je dois faire. Et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les détails de notre vie. Et c'est pour cela que c'est si important d'être dépendant aussi de cela, de montrer cette dépendance pratique dans notre vie pour vraiment faire ce que Dieu veut, comprendre ce qu'il veut, ce qu'il a établi dans sa parole, d'ailleurs non seulement dans le côté spirituel, comme nous le disons souvent, quant à ce qui se passe dans les réunions, par exemple, ou dans notre vie entre nous, mais aussi dans les choses où Dieu nous dit quelque chose qui lui plaît. Il nous dit dans sa parole qu'il lui plaît quand nous prenons la place que lui, il nous a conférée selon sa pensée dans la création. Déjà là, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, par exemple, que la femme se soumette à son mari. Ah, encore aujourd'hui, 2023, quand vous regardez dans la société, ah non, 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 c'est pas ça. Non, ça c'est là, on se... Ah, on te truc. On supprime les femmes, peut-être. Vous me comprenez quand je dis ça, oui. Alors, c'est ce qu'on dit dans la société. Non, c'est pas. La parole nous dit autre chose. La volonté de Dieu est claire. Il nous le dit dans la parole. Il nous dit bien des choses quant à notre comportement, quant à notre responsabilité. Cette femme ici, elle a une responsabilité, mais où ? Dans la famille. C'est là que la responsabilité. D'ailleurs, l'apôtre ne lui dit pas ce qu'elle doit faire dans le rassemblement. Ah non ? Parce que dans le rassemblement, elle n'a pas un devoir à accomplir. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça. Mais il y a aussi bien des choses que aujourd'hui, dans la société, on pense autrement et malheureusement, et c'est ce que nous devons voir, ces choses entrent un peu et un peu plus aussi dans nos esprits. Nous pensons qu'une sœur peut faire la même chose qu'un frère. Eh bien, Dieu dit non. Et vice-versa. Alors, ça n'a rien à faire avec la valeur. Je le souligne surtout, la valeur. Ce n'est pas une question de valeur. C'est la grande mal... mécompréhension dans le monde, n'est-ce pas ? On pense qu'avoir un droit de faire ceci ou cela... Ça représenterait aussi une certaine valeur. Ah non, non, non. Cette femme soumise, cette femme qui suit vraiment la volonté de Dieu là, et qui la connaît et se soumet, alors elle a une grande valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Grande valeur. Et la même valeur... D'ailleurs, l'Écriture nous en parle aussi, parce que la femme a la même, comme on l'a dit, en Pierre 3, juste ce petit passage. « quand il s'agit au verset 7, 1 Pierre 3, 7, pareillement vos maris, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est vrai, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Alors, nous voyons que la femme a la même place quant à sa vie spirituelle que l'homme. Mais dans la pratique de sa vie ici sur la terre, Dieu lui a consigné une place et a consigné une place à l'homme. Ça, il faut comprendre. Là aussi, c'est une question d'obéissance au commandement. Or maintenant, ô dame, je te prie, non comme écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Oui, c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Aimez-vous l'un l'autre. Le Seigneur l'a dit à ses disciples, par cela aussi le monde saura que vous êtes mes disciples. Nous connaissons cela. Et comment est-ce que nous pouvons nous aimer les uns les autres ? Avec un vrai amour, c'est-à-dire l'amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme nous le dit Romains 5, et nous savons qu'il y a en nous aussi cet amour, et que cet amour peut, en effet, aimer les uns et les autres. Je peux aimer aussi le frère à côté de moi qui n'est pas si sympathique que j'aimerais. Alors, ce n'est pas la sympathie de l'un pour l'autre, mais c'est un amour que nous avons pour un croyant parce qu'il est l'enfant de Dieu, parce qu'il est mon frère ou ma sœur, parce que nous avons le même Père et parce que nous avons la même vie, parce que nous avons le même Seigneur que nous aimons. Et cet amour pour le Seigneur nous relie aussi entre nous. C'est ce que le Seigneur dit. Ensuite, dans le verset 6, nous avons encore que nous marchions, c'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements. Voilà une phrase très importante. L'amour se montre dans le fait que nous marchons selon les enseignements, les commandements du Seigneur. Notre amour se montre dans cette obéissance aux commandements. Le Seigneur l'a dit lui-même. C'est celui qui garde mes paroles, mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et même il dit une fois, celui qui garde ma parole, c'est-à-dire qui est tout près de moi, qui comprend aussi ce que je n'ai pas dit concrètement et directement, mais que tu peux connaître quand tu connais la vérité. Tu peux connaître quelle est ma pensée. Quand tu suis ma parole, alors là, tu m'aimes. Je remarque que tu m'aimes. C'est là quelque chose de grand aussi. Et alors aussi avec une promesse que nous trouvons en Jean 14, dans ce fameux passage que nous connaissons. Que le Père et le Fils viendront pour faire habitation chez nous. Cette communion dont nous jouissons alors à ce moment-là. Quand nous sommes vraiment prêts à vouloir savoir ce qui plaît au Seigneur. Et quand nous avons quelque chose à faire, quelle question est-ce que nous posons ? La question, est-ce que je peux encore le faire ? Oui, ça, peut-être je peux, pourrais peut-être, oui, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas grave, non ? Est-ce que c'est là la question ? Non, la question pourrait être, et ça serait meilleur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire, mon Seigneur ? Qu'est-ce que je peux faire pour être à ta joie ? Mais il faut le connaître par la parole, parce qu'il y a là le commandement. Je vois que le temps passe, excusez-moi, mais je pense que nous trouvons encore quelques Vous me permettez encore quelques minutes, s'il vous plaît, oui. Comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez, c'est ce que le Seigneur aimerait, c'est ce que Dieu aimerait, c'est ce que l'apôtre aussi aimerait. Et ensuite il dit, car plusieurs sont là, parce qu'il y a un danger. Il y a des personnes qui sont sorties de chez nous. Il paraissait qu'ils étaient aussi des chrétiens. Il paraissait qu'ils étaient des frères. Est-ce qu'ils étaient vraiment? Alors, il est dit, ils sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Oui, peut-être je devais en parler demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a donc des personnes qui peuvent venir, qui disent autre chose, qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus venant en chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur Jésus est venu en chair, est venu dans la chair. C'est dit déjà dans la première épître de Jean. Le Seigneur Jésus est venu, et il n'est pas venu en ange, comme un ange, il est venu comme un homme. C'est une grande vérité. Mais quand il est venu, c'est qu'il était avant autre chose. Vous me permettez que je le dise simplement comme ça. Parce qu'il était... Nous, quand on dirait de nous, là, Pierre, tu es venu en chair, mais comment est-ce qu'il pourrait venir en chair, bien sûr, parce que ses parents sont chers, parce qu'il est cher, c'est clair. Mais pour le Seigneur Jésus, il dit, il est venu en chair, et ça c'est vrai, parce qu'il était Dieu, et il était comme Dieu, il est venu en chair. Il est devenu un homme, tel que nous, avec des sentiments, mais des sentiments purs et saints. Parce qu'il est dit aussi, il était un homme sans péché, à part le péché. Il est devenu comme nous, à part le péché. Il était prêt à prendre notre condition d'homme, c'est-à-dire d'être, je prends des exemples, fatigué, ou aussi d'être triste, parce que le Seigneur Jésus a aussi pleuré. Il était aussi triste quand il a vu les choses qui se passaient autour de lui, quand il a vu que les hommes ne voulaient pas longtemps entendre la parole, quand il a vu toute cette désobéissance de son peuple, quand il a vu l'état de son peuple. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem, il a pleuré sur le peuple. Le Seigneur Jésus avait vraiment des sentiments pur et saint, mais il était comme un homme, comme tel que nous, quant à cette condition humaine d'avoir faim, d'avoir soif, etc. Il connaît aussi toutes les choses, il connaît aussi les difficultés qu'un homme peut avoir. Et quand nous lisons les psaumes, nous pouvons très bien le voir. Et sa confiance était toujours en Dieu, comme homme ici sur la terre. Sa confiance était uniquement en Dieu. Nous pouvons le dire, le voir surtout dans les psaumes. Par exemple, dans le psaume 22, « Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Les pères se sont confiés en toi, mais moi. » Alors, dans cette heure, si solennel quand le Seigneur était sur la croix. Mais alors, qu'est-ce qu'il a souffert, lui? Qu'est-ce qu'il a souffert, lui, déjà avant, par cette méchanceté, par tout cet opprobre qui était contre lui? Il a ressenti tout cela, vraiment. Il était un homme, il était venu en chair. Et s'il y avait des personnes qui disaient, oh non, il n'était pas venu, ou bien ils ont pensé que Il n'était pas un homme, et c'était. Oh, non, c'est pas. Et aussi, où ils ont dit, alors non, il était un homme, mais il n'était pas Dieu. Vous voyez, cette grande. Ce grand miracle, oui, miracle, que le Seigneur Jésus était et fils de Dieu et l'homme, Christ Jésus, nous ne pouvons pas le mettre ensemble, nous ne le comprenons pas. Pour nous, c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Non, pour le Seigneur Jésus, les deux choses sont vraies. Et ça, c'est un vrai miracle divin. Et cela, rejeter cela, ça c'est séduction. Ce qui se montrait dans le temps où l'apôtre vivait déjà, et c'est encore aujourd'hui que des gens pensent comme ça, même des gens qui se nomment des chrétiens. Mais alors maintenant, quelle est la conséquence? La conséquence pour elle, pour cette dame, pour cette femme, pour ses enfants. Aussi pour nous, n'ayez aucun contact avec de telles personnes. Ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. C'est un principe que nous trouvons ici très clair. Quand nous acceptons des personnes qui disent comme cela des fausses doctrines, qui faussent la vérité ou qui rejettent la vérité, à ce moment-là, nous devons avoir une attitude absolument ferme et claire, vraiment de ne pas avoir de contact avec, de rejeter entièrement une telle personne. Donc, l'amour ici n'est pas à sa place. Nous ne pouvons pas montrer un amour ou une affection, une gentillesse ou quelque chose comme ça. Si nous faisons cela envers une telle personne, nous participons à ses mauvaises œuvres. Nous disons, oh, ce n'est pas si grave, mais il faut accepter, là, il faut comprendre. Peut-être alors, c'est sa façon de dire cela, c'est très très gentil. Alors, ce n'est pas si grave que ça. Stop, c'est absolument grave. Donc la parole est très très claire. Et nous ne pouvons jamais faire un compromis avec une telle chose, surtout quand il s'agit de la personne du Seigneur Jésus. Et ça c'est un exemple. Il y en a encore d'autres qui existent, que je ne vais pas nommer, mais où on parle du Seigneur Jésus d'une façon qui est absolument horrible. Où on rejette des titres, des honneurs qui appartiennent, des gloires du Seigneur Jésus. Quand on touche à sa gloire, à sa personne, à ce moment-là, c'est absolument non. Nous n'avons rien à faire avec une telle personne. Que ce soit peut-être aussi dans des entretiens que nous pouvons avoir avec des gens du monde, si quelqu'un parle comme ça, quand il s'agit du Seigneur Jésus, attention. Dans le cadre des collègues, on en parle peut-être? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que s'en aller. Faire clairement non. Ne dites rien contre mon Seigneur. Quand vous dites ça, je vous quitte. Je ne peux plus avoir de contact avec vous. Dans le travail, c'est autre chose. Quand vous devez travailler avec quelqu'un, c'est autre chose. Mais alors, pour tout ce qui est intérieur, qui est dans notre cœur, absolument clair. L'apôtre dit encore à la fin, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne voulais pas les faire avec sur le papier et l'encre. C'est très bien d'ailleurs qu'il écrit quelque chose. Nous avons les deux possibilités. Ou bien il parle comme ça, bouche à bouche, comme il dit ici. Alors, ça nous montre. C'est le contact que nous pouvons avoir avec quelqu'un. L'apôtre, donc, lui, avec cette femme et sa famille, il aimerait bien. Quand on se parle, on peut le voir. Quand on se parle, on peut voir aussi l'effet de ce qu'on dit. On peut remarquer les gestes, etc. Vous comprenez? C'est bien, c'est autre chose. On peut parler aussi, on peut comprendre. Il n'a pas encore compris. Il faut que je dise encore autre chose, autrement peut-être. Ça, c'est très bien. Mais c'est bien aussi d'écrire quelque chose. Et nous sommes très heureux de ce que l'apôtre a écrit ça. Et il a dû écrire, parce que l'Esprit de Dieu lui a montré qu'il faut écrire cette lettre à cette dame. Sinon, on n'aurait pas cette lettre, cette épître dans notre Bible. L'Esprit de Dieu a déjà, au moment où Jean a écrit cette épître, a déjà conduit, pour ainsi dire, la main de cet homme et lui a montré ce qu'il devait écrire. Et ainsi, cela est maintenant dans la parole de Dieu. Nous pouvons le lire. Nous ne pouvons pas parler à l'apôtre, à cet ancien. Nous n'avons pas la possibilité de voir, et lui, il ne nous voit pas, vous comprenez, bien sûr. Mais alors, c'est pour cela que nous sommes aussi très heureux de ce que Dieu a voulu que quelques pensées soient écrites dans sa parole. C'est d'ailleurs une chose extrêmement grande aussi. Dieu aurait pu se taire. Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a pas seulement parlé, il nous parle encore. Mais il nous a aussi fait écrire quelque chose, parce qu'il sait que nous oublions facilement. C'est pour cela qu'il a écrit quelque chose, fait écrire quelque chose, pour que nous puissions le relire. Quelle grâce! Nous le disons souvent, quelle grâce que nous avons la parole de Dieu, écrite, lisible encore pour nous, qui touche encore aujourd'hui nos cœurs et nos consciences. Il y a encore d'autres choses à dire concernant cette épître, excusez-moi, mais je crois qu'il faut terminer. J'avais la pensée un peu, peut-être on peut encore ajouter quelques pensées. J'avais la pensée de demain, quand le Seigneur n'est pas encore venu, et nous avons l'occasion de lire encore le troisième épître de Jean demain, et peut-être commençons avec quelques pensées encore concernant cette deuxième épître. Merci de votre patience.
Deux cent vingt-neuf, une.